Depuis 2022, les ateliers et les conférences de Vinapogée sont enregistrés pour que vous, amateurs de vin, puissiez écouter et réécouter afin de vous divertir et apprendre au fil du temps histoire, expérience, gourmandise, savoir. Avec sa couleur vermeille et son profil unique, le rosé d'Hérissé, dont l'appellation est reconnue depuis 1947, traverse le temps avec délectation. Arnaud Fabre, président, et Alain Payet, chef de cave du domaine Alexandre Bonnet, font déguster les millésimes 2019, 2012, 2002 en magnum, 1996, 1989 et 1980.
Merci beaucoup de nous rejoindre ce matin pour cet atelier autour du rosé d'Hérissé. Je m'appelle Arnaud Fabre, je suis le président du domaine Alexandre Bonnet. Et à ma gauche, Alain Payet, chef de cave, qui a fêté sa 38e vendange l'année dernière et qui va pouvoir vous raconter chaque millésime en détail ce matin. Les vins arrivent, hein. ils sont dans les murs, on ne sait pas très bien entre quels murs ils sont, mais ils sont dans les murs. On va parler un petit peu de l'histoire d'Hérissé, pour commencer, en attendant les vins, parce que ça permet de mieux comprendre pourquoi ce vin existe aujourd'hui. L'Hérissé, c'est, comme vous savez certainement, le village le plus au sud de la Champagne. On est à 3 km de la Côte d'Or. Et l'Hérissé, en fait, a toujours été disputé pendant toute son histoire entre les ducs de Bourgogne, les comtes de Champagne, puis le royaume de France. Juste pour vous donner une idée, l'Hérissé a changé 4 fois de province entre l'an 800 et la Révolution. Et à la Révolution, on finit par faire passer la limite du département de l'Aube à 3 km au sud d'Hérissé. Pourtant, l'Hérissé est tellement bourguignon. Il suffit d'être parachuté dans le village pour se rendre compte que l'architecture est bourguignonne, que la pierre, le sol, le terroir est bourguignon. On est sur des calcaires du Jurassique, hein, des calcaires kiméridiens, comme les grands crus de Chablis, finalement. L'Hérissé a finalement rejoint administrativement la Champagne, donc à la Révolution, et enfin a accédé à l'appellation Champagne après de rudes batailles, comme vous savez certainement, en 1927. Pendant ce temps-là, on a continué à faire du rosé d'Hérissé. Les premiers écrits sur le rosé d'Hérissé datent du XVIe siècle. Donc on en a la preuve certaine qu'on fait du rosé d'Hérissé depuis le Moyen Âge. On en fait certainement depuis bien avant, probablement depuis que les moines de Molesme se sont installés au XIIe siècle. Il y a des caves cisterciennes au Hérissé du XIIe siècle. Molesme étant l'abbaye qui a été construite par Robert de Molesme, qui ensuite s'en va à Clairvaux. Le rosé d'Hérissé a donc perduré à travers les âges, quelle que soit l'appartenance du village, quelle que soit l'accession à l'appellation Champagne, on continue à faire du rosé d'Hérissé jusqu'en 1947, date à laquelle on finit par avoir l'AOC. C'est peut-être pour ça que la méthode d'élaboration du rosé d'Hérissé est relativement simple finalement. C'est un vin de macération de pinot noir en grappe entière. Voilà, c'est tout. Donc finalement, qu'est-ce qu'on fait ? On prend les grappes, on prend les grappes, on les met dans la cuve.
On en fout une partie pour faire du jus, voilà. On lance la fermentation alcoolique et on laisse en fait la fermentation, excusez-moi Arnaud, je prends la remède parce que je parlais un peu technique.
C'est votre point. Mais...
Donc en fait, probablement à l'époque, on s'est multi-cépage, c'est presque un pasteau grain. Il y a du gamète dedans, c'est sûr, il y a du pinot noir et vraiment le... La technique, elle est toute seule, c'est ce qu'on disait. Il suffit de fouler un peu le fond de la cuve pour faire un peu du jus au bas. Et à l'époque, on attendait que ça se passe. Maintenant, levure, on ne levure pas. On est revenu un peu aux techniques anciennes. Moi, je suis confronté au premier rosé d'Hérissé en 85. Donc, on me dit, l'appellation Champagne, tout est bien défini. C'est très, très, très normé. C'est très calibré. Et le rosé d'Hérissé, pour moi, c'est que du bonheur parce qu'en fait, il n'y a rien d'écrit. C'est expérimental. C'est un rosé qui est un rosé, si vous ne l'avez pas vécu, vous ne pouvez pas l'élaborer. C'est un rosé de goût. Il faut être au pied de la cuve pour tester le jus de goutte puisque vous avez très peu de jus libre en fait dans la cuve. Et il faut suivre son évolution. au cours de la fermentation alcoolique. Et c'est ce fameux... J'avance peut-être un peu vite dans l'histoire, mais en fait, c'est ce fameux goût d'hérissé qui apparaît à un certain moment dans la cuvaison qui vous permet de saigner la cuve, de séparer le jus libre qui est dedans du reste qui est encore contenu dans les raisins. Si vous ne l'avez pas goûté, vous ne pouvez pas savoir. Il faut être entouré d'anciens pratiquants, des gens qui ont élaboré le rosé d'hérissé depuis des années, pour que vous appreniez le moment d'arrêter la fermentation alcoolique. Alors, ce qui fait que... On goûte les baies avant d'encuver, et surtout, on choisit... On choisit l'aire d'appellation, on choisit sa parcelle, puisque sur les 844 hectares d'appellation, il y a à peu près 64 parcelles, c'est même pas à peu près, c'est sûr, 64 lieux-dits qui ont été choisis pour le rosé d'Hérissé, ce qui représente à peu près 350 hectares sur Hérissé. Mais il s'en fait pas 350, oui.
64 parcelles que vous avez
goûté Non, sur l'appellation, 350 hectares, 64 parcelles. Bonnet en possède plusieurs, et nous on a fait un choix. On a fait un choix sur un lieu-dit bien précis qui s'appelle La Forêt, qui est une vigne de sélection Massal qui a été plantée chez Bonnet en 73. Et on a, dans cette parcelle qui fait plus de 4 hectares, un secteur bien précis qui est un petit, on va dire, c'est une côte, mais c'est un plateau, c'est pas vraiment un plateau, c'est un petit replat, où la vigne est conduite pour faire le rosé d'Hérissé. On fait encore un choix dans cette parcelle-là pour élaborer ce vin. Ça veut dire qu'à cet endroit-là, on va y mener une taille un peu plus courte. Il nous est arrivé d'enlever des raisins s'il y en avait trop, etc., de manière à obtenir une maturité exceptionnelle pour l'appellation, en fait, pour l'appellation champagne. Ça n'a rien à voir. Quand on décide de faire du rosé d'Hérissé, on conduit la vigne vraiment pour aller jusqu'au bout, pour avoir des degrés élevés, etc., pour avoir une belle maturité, une belle véraison, pour que tout ça se soit uniforme. Donc, ce qui veut dire que on en fait pas forcément tous les ans, d'accord. Il faut vraiment que ce soit des millésimes. On dit exceptionnel au départ, parce que ça, c'est pareil. Comme c'est un rosé, vous l'avez compris, qui est un rosé de goût, avant d'être un rosé de couleur, la couleur, elle vient après. La couleur, elle apparaît quand on assemble le jus de goutte et le jus de presse, puisque quand on saigne la cuve, en fait, quand on met les raisins sur le pressoir, on a encore une grosse partie de couleur qu'on n'a pas vue au moment du décuvage. Et c'est l'assemblage du jus de goutte et du jus de presse qui va faire, en fait, la couleur de la cuvée. Cuvée qui va être vinifiée après, classiquement, comme un vin blanc, et qui sera par la suite élevée soit en cuve en totalité, soit sous bois en partie, soit en totalité sous bois. Enfin, tout dépend des vinificateurs. Chez nous, toute la cuvée, tout ce qui est jus de goutte et une partie du jus de presse va en cuve et une partie passe sous bois. Donc je reviens sur peut-être sur les. Si vous avez des questions sur la cuvaison proprement dite, c'est un rosé qui se cuve entre 3 jours et 3 jours et demi, voire 4 jours, certains millésimes. Tant que le goût n'apparaît pas, alors vous allez me dire c'est quoi le goût de Hérissé. C'est un moment donné où on a un déséquilibre entre l'acidité et les sucres encore présents. Vous avez une espèce d'amertume qui apparaît en fin de bouche, et qui vous dit que si vous passez cette limite-là, vous allez faire un coteau champenois rouge, et vous n'êtes plus sûr du rosé. Et quelquefois, quand on fait... je ne sais pas, il y a peut-être parmi vous des gens qui ont l'habitude de goûter du rosé d'Hérissé, ne seront pas surpris par la couleur, mais ça peut être légèrement rouge, mais ce n'est jamais des arômes de coteau champenois rouge tels qu'on les élabore au Hérissé. D'accord ? C'est vraiment une très, très typique. Ah, sur le rosé d'Hérissé, on est plutôt sur des arômes très fins, style framboise, fraise des bois. Sur le rouge, on sera plutôt sur des arômes de cassis. C'est déjà très prononcé chez nous, ces arômes-là, surtout dans cette contrée-là. On a quelquefois des arômes de cerise, de cerise fraîche, oui, ça peut arriver. Mais globalement, c'est ces petits fruits rouges et ça doit être très parfumé et très agréable. Déjà au début du décuvage. Le décret a très,
très bien calibrer les choses. Le temps entre le moment de la récolte et le moment où on passe l'agrément, il s'écoule à peu près 9 mois. D'accord, enfin, 10 mois, on va dire, 10 mois. Tout dépend de la date de la vendange. Comme maintenant, c'est très, très raccourci, les cycles. On vendange pratiquement fin août tous les ans. Donc l'agrément a lieu au mois de juin de l'année qui suit. Normalement, on doit déposer au moment de la récolte l'intention sur le volume de rosée d'hérissée élaboré. D'accord ? Maintenant, c'est plus comme ça. Il y a eu une réforme qui a été faite récemment pour pouvoir prendre l'option rosée d'hérissée au mois d'avril, fin avril. D'accord ? On ne se détermine maintenant pour faire du rosée d'hérissée si vraiment on pense qu'on est vraiment dans le type de vin au fin avril. On n'est pas obligé de déclarer sur la déclaration de récolte, au moment de la récolte, l'appellation rosée d'hérissée. C'est une option qu'on prend plus tard. Pourquoi ? Parce qu'il s'avère quelquefois, c'est ce que je disais, dans l'élaboration, on peut dépasser la limite du rosé d'hérissée. Si on est rouge, évidemment, on ne va pas présenter le vin à la commission. Commission d'experts qui se réunit et qui juge tous les vins. Hein, c'est pas un sondage. Tous les producteurs doivent donner leur vin à l'agrément. Mise en bouteille au mois d'août, et après commercialisation comme on veut. Donc il y a des maisons qui laissent vieillir le vin un peu, il y a des maisons qui vendent le vin un peu plus jeune, tout dépend. Voilà, c'est une façon de commercialiser le rosé d'hérissée. Nous, en ce moment, on commercialise le 19. On commence par le millésime 19, pour que vous ayez un peu l'idée de ce que donne le rosé d'hérissée jeune. 19 millésimes précoce, encore un. Encore un. On pensait que avec les 2002, sur des millésimes exceptionnels au niveau de la précocité de la récolte, il s'avère qu'on est de plus en plus tôt, les cycles sont de plus en plus courts. 19, c'est un bel équilibre entre les sucres et les acides. C'est une vendange saine. Les millésimes qu'on présente, de toute façon, le rosé d'hérissée ne supporte pas les raisins altérés. C'est déjà trié à la vigne et c'est retrié en cave. D'accord ? Il faut absolument des raisins parfaitement sains. Parce que c'est un vin qui est très peu protégé en fait, pendant la fermentation et qui l'est très peu après, qui est très peu clarifié. Voilà, c'est encore un vin où on intervient très très peu. Alors, c'est un vin qui a un support tannique très léger, ce qui fait que la couleur peut évoluer très rapidement en fonction des millésimes. Il n'y a pas de tanins qui viennent se fixer sur les anthocyanes pour que la couleur elle tienne plus longtemps. Je pense que quand il y avait un peu de gamay dans les cuves, ça tenait la couleur un peu plus longtemps. Là, on peut partager. Mais moi, qui ai eu la chance de goûter des 47 et des 62. Dans le 47, il y avait du gamay. Et les couleurs, elles étaient encore vraiment, pour les bouteilles qui ont supporté le vieillissement, c'était vraiment exceptionnel. Ouais. Ouais, c'est vraiment exceptionnel.
Le décret, c'est quand ?
Comment ? Le décret, c'est 47.
C'est 47 ?
47. Moi, j'ai connu les dernières vignes au Risset. Je suis arrivé en 85, il y avait encore des vignes de gamay. Une toute petite vigne qui a été arrachée quand le propriétaire est décédé, quand il a laissé son vignoble.
Mais... Il peut y avoir un engagement des vignerons à planter en pinot noir.
Alors, c'est tout à fait. Tout à fait. Ça a été définitivement adopté en 62, où il ne fallait plus un grain de gamay dans les assemblages de rosé d'hérissée. Ça a été définitivement décidé. Le rosé d'hérissée ne pouvait être issu qu'une élaboration de pinot noir. Alors bien sûr, quand tout à l'heure je vous ai dit il y a 350 hectares de rosée d'hérissée potentiels à Risset, il ne s'en fait pas sur 350 hectares. Hein. Bon an, mal an, il s'en fait à peu près entre 50 et 60 000 bouteilles, 70 000 bouteilles. On est une trentaine de déclarants et il s'en fait de 1500 bouteilles à 5, 6 000, 7 000, ça dépend. Nous, on fait partie des plus gros producteurs. On a... Voilà. Ouais, c'est. On en a fait beaucoup plus que ça. On en a fait beaucoup plus. Mais bon. Comment ?
Ça repart à la hausse
tout doucement.
3
Tout à fait. Et là, je reviens juste dans cette côte-là, en fait. C'est pour ça qu'on a... cette côte de la forêt, elle est aussi destinée aux coteaux champenois rouges. Elle est aussi destinée aux rosés de saignée. Et elle est aussi destinée à une cuvée contrie et pour faire un champagne blanc. Donc, voilà, il faut faire un choix entre les raisins. Voilà, un blanc de noir. Voilà. Derrière ça, alors, je vous ai dit, le choix des millésimes, c'est... ils ont tous des particularités, hein, pas exceptionnelles, mais ils sont tous un peu... Enfin, tous les millésimes sont différents, ça c'est... Mais ils ont tous des caractéristiques un peu... Quelques-uns sont très éloignés, en fait, entre les équilibres et sucre et acide. D'accord ? Enfin, le point commun qu'ils ont tous, c'est que c'était des vendanges où les raisins étaient dans un état sanitaire parfait. Parfait. D'accord ? C'est vraiment... ces vendanges-là sont des fins de vendanges exceptionnelles avec des raisins parfaitement sains. Ah ! Alors, alors, si vous parlez du début de vendange pour récolter les raisins pour faire le champagne et pour le rosé d'Hérissa, c'est complètement différent. Alors, la première date de départ, c'est la date qui est attribuée pour faire les raisins, pour cueillir les raisins, pour faire les vins de base pour le champagne. Et puis nous, après cette date-là, on choisit notre date pour récolter le rosé d'Hérissa. Donc il y a plusieurs critères, c'est-à-dire qu'on laisse la côte mûrir au maximum, et puis il y a la météo. C'est-à-dire que ça peut arriver que, par exemple cette année, le rosé d'Hérissa, on l'a récolté pratiquement dans les premiers jours de la récolte. Et puis certains millésimes, on attend un peu, d'accord, on n'est pas pressé, s'il y a une fenêtre météo qui est exceptionnelle, on attend. On a une équipe, on déplace une équipe exprès pour le rosé d'Hérissa. Et de préférence, on le récolte l'après-midi. D'accord ? Il faut que les raisins soient chauds à l'encuvage. Oui, parce que, comme je vous ai dit, en fait, c'est très peu protégé. Les raisins sont très peu protégés. On ne sulfite pratiquement pas. Il y a des millésimes, je ne les ai même pas sulfités. Donc on encuve et on lance la fermentation tout de suite derrière. Il n'y a pas de macération préférentaire à froid pour le rosé d'Hérissa. Il faut que ça démarre tout de suite, parce que comme il n'est pas protégé, il faut saturer la cuve tout de suite en gaz carbonique. Et puis après, ben voilà, on fait des remontages classiquement pour arroser les raisins. En fait, le rosé d'Hérissa, c'est dans des cuves ouvertes. Chez nous, c'est des petites cuves qui font à peu près 5000 kilos. Et c'est une semi-macération carbonique. Voilà. 3 jours et demi, 4 jours. Ça va, on va toujours un peu, on est toujours un peu borderline.
Toujours à l'heure près ou à 2 heures près.
Alors c'est. Ouais, moi je suis en vieillissant, on fait un peu ce qu'on veut, quoi, donc on décuve quand ça nous arrange. Parce que moi j'ai un transit, etc. Je mange à des heures bien précises, donc je préfère que ce soit fait avant et pour être tranquille. Non, je plaisante. Oui, ça peut pas attendre, ça peut pas attendre. Par exemple, on ne pourrait pas attendre 4, 5, 6 heures, c'est passé, quand ça serait vraiment trop tard. On ne pourrait pas dire, si c'est bon à faire à 20 heures, on fait à 20 heures, on ne décale pas au lendemain matin à 8 heures. 2, 3 heures, ça bascule très vite, ouais. Ça peut basculer très vite. Et l'intérêt, c'est d'être justement à la limite. Ouais. Ah, bonne question, oui. Oui. Si on a la chance d'avoir déjà des fermentations alcooliques déclenchées sur des blancs, par exemple, on alimente les cuves en gaz carbonique, mais tout de suite, pas au moment de l'encuvage, hein, parce que sinon, il y a quelqu'un qui descend au fond de la cuve qui écrase les premiers raisins. Donc, ça serait dommage malot d'en perdre un comme ça, bêtement, au début de vinif. Donc, on lui laisse déjà tasser les raisins au fond, et puis après, on amène le tube de... Alors, bonne question, non ? Non, ça libère pas assez de jus. Même si la cuve ressemble à une grosse caisse de raisin, pendant la fermentation alcoolique, vous retrouvez pratiquement le même niveau dans la cuve. Le jus se libère, mais en fait, il y a tellement de rafles. En fait, globalement, il y a tellement de rafles que ça ne se tasse pas. En fait. Tant qu'on n'a pas attaqué la structure du raisin, on n'a pas de tassement dans la cuve. C'est pas possible. Ce qui veut dire que quand on décuve, on ressort pratiquement autant de raisins qu'on a rentré. Il y a autant de caisses. Hein, c'est, il y a, il, sur une cuvaison de rosé d'Hérisset, sur 5 000 kilos, on va extraire, je ne sais pas, 5-6 hectos de jus, pas plus, 10 maximum. Et tout le reste, ça va sur le pressoir. Sur quoi dire, ah oui, sur l'élevage, j'ai pas parlé un peu de l'organisation des producteurs, mais c'est intéressant parce que nous on fait un test entre collègues au mois de février. On amène tous nos rosés d'Hérisset et on se juge à ce moment-là pour savoir si on est dans les clous ou pas. C'est une dégustation anonyme, bien sûr. Moi je l'ai connu au début, c'était comme un tribunal. Vous n'osiez pas apporter vos échantillons parce qu'il y avait toujours les anciens qui étaient là pour dire ah, ça, t'étais, gamin, t'es allé trop loin, gamin, t'es pas allé assez loin. Donc maintenant, ça se fait anonymement et c'est mieux. Mais ça fait partie de l'organisme de contrôle, voilà, du syndicat. Le problème, c'est pas tellement de vendanger de bonheur, c'est de vendanger des raisins qui ont subi des valeurs excessives pendant le climat. D'accord ? Ça, c'est jamais, on n'a jamais vu ça à ce point-là. D'accord ? On a un cycle qui se raccourcit de plus en plus. D'accord ? Et on a surtout des points dans le climatique qu'on n'avait pas avant. Il y a 3 millésimes de suite, pratiquement. On a des stress hydriques, on n'a jamais eu ça. Le millésime de 2019, par exemple, a failli connaître ça. Le millésime 2022 a failli connaître ça. Donc ça en fait beaucoup. Le 2012, le 2012, il est un peu dans ce... Le 19, c'est le premier à subir deux périodes excessives de sécheresse. Deux fois, d'accord ? Avec des raisins on perd à peu près 20% de la récolte à cause de ça. Deux épisodes comme ça, on n'avait jamais vu. Alors, il est super bon, tant mieux. Tant mieux, sinon on ne le présenterait pas. Mais c'est surtout très compliqué pour traiter cette vendange qui est semi-altérée avec des raisins secs et mêlée au milieu de raisins entiers, ou partiellement secs avec partiellement normaux, on va dire, en fonction de l'exposition de la vigne par rapport au soleil, etc. C'est très compliqué. Alors, vaste débat. On peut toujours... Ouais, la viticulture doit changer, je suis d'accord. Mais on a essayé de rogner. Une année, on avait rogné trop près. Il faut rogner moins près. Il faut respecter le feuillage. Encore faut-il que le feuillage soit parfaitement sain au moment où il y a beaucoup de chaleur. Cette année, c'était le cas. Il y a eu un feuillage parfaitement sain jusqu'au bout, ce qui a protégé les raisins. Encore faut-il qu'on n'ait pas eu d'attaque de mildiou, qu'on n'ait pas eu d'attaque de lium, etc. etc. Donc, Guyot simple. Sur la commune, il y a du Guyot monté, du Guyot simple, il y a du cordon, il y a un peu de chablis. Mais chez Bonnet, on pratique pratiquement que du Guyot simple. Fructifère, à peu près 8 sur la baguette et 2 sur le courson. Voilà. Lequel ? Alors 2002, tout le monde avait le sourire. C'est le millésime où il y a tout. Il y a de la récolte, c'est verré comme il faut, c'est parfaitement sain. On se dit que c'est le millésime du 21e siècle, en fait. Mais non. Et on fait un pari sur le 2002 en disant que c'est vraiment exceptionnel. Et c'est pour ça qu'il est servi en magnum. C'est les premiers magnums que je tire. Les autres... Il y a aussi des magnums de tirer dans les autres millésimes, mais pour l'instant, on se les garde. Non, ils sont pas à évolution, ils sont pas dans la bonne...
Ouais, tout vient de forêt aujourd'hui. Il y a eu des essais dans d'autres contrées. Mais...
C'est la forêt, la côte s'appelle, le lieu-dit s'appelle la forêt. Alors, 96, millésime très, très acide. Ouais, un millésime... Pour certains diront que ça, c'est un millésime exceptionnel, puisque à l'époque on disait qu'il fallait que ce soit acide les vins pour vieillir longtemps. Donc c'est vraiment un millésime qui était un peu très particulier, qui se rapprocherait de 1988 pour moi. Il est un peu dans le même style. C'est un millésime qui sort de tout le reste. Il est un peu à part, ne serait-ce que pour son évolution et de la façon dont on l'avait interprété au début. On s'est un peu... Voilà, on avait dit que c'est exceptionnel. Sur les vins de champagne, ça reste un très bon millésime, mais qui a eu du mal à s'ouvrir. En plus, ce qui est intéressant, c'est que vous les gardez au fur et à mesure, donc vous allez pouvoir en fait revenir dessus. Et vous allez voir que certains, en prenant l'air, évoluent encore différemment. Et, là, j'insiste, hein, mais l'ennemi public numéro un de ce vin-là, c'est le manque de support au départ. Et le manque de support tannique. Donc, classiquement, on dit viande blanche, on dit viande saignante, on dit voilà, on dit toutes ces choses. Mais on a déjà fait des accords mets-vins avec des chefs et avec des accords très surprenants. Ou par exemple avec un lièvre à la royale où on ne pensait pas que c'était possible et c'est possible avec des sauces déjà un peu capiteuses, un peu rondes, voire même un peu sucrées.
C'est moi le gourmand dans l'histoire. Oui, alors avec le Chavours, traditionnellement, évidemment, puisque le Chavours est à moins de 20 km d'Hérissé. Mais non, des accords, effectivement, on est allé un petit peu plus loin. On a poussé le bouchon jusqu'au lièvre à la royale. Et finalement, on s'est rendu compte que la puissance du plat était équilibrée par la verticalité et la fraîcheur du vin. Et qu'au contraire, le vin offrait une respiration, en fait, entre chaque bouchée de ce plat qui est quand même très, très puissant. Et ensuite, aromatiquement, il y avait de la même manière une complémentarité entre les arômes giboyeux, chocolatés, enfin cacaotés, tout ce qu'on peut avoir dans le lièvre à la royale, et le côté panier de petits fruits rouges acidulés qu'on peut avoir dans le rosé d'Hérissé. Donc c'est un accord de contraste, et c'est un accord super intéressant. En prenant comme postulat que le rosé d'Hérissé est suffisamment puissant pour se mettre en face du lièvre à la royale. Et ça fonctionne. Voilà. Et puis après, ben, par déclinaison, j'en parlais tout à l'heure avec un grand amateur sur notre stand, beaucoup plus simplement, une belle côte de bœuf sur la braise, des sarments de pinot noir, tant qu'à faire. L'été, quand il fait chaud, on a moins envie d'ouvrir un vin rouge capiteux, un rosé d'Hérissé. Il a quelque part les atours du rouge qui vont permettre une très belle dégustation sur une belle pièce de viande, et en même temps cette fraîcheur qui fait que l'été ça sera jamais pesant ou fatigant. Voilà, donc ça c'est l'accord simple. Et puis après en gastronomie, on l'a aussi servi sur du col vert, on l'a servi sur tout ce qui est gibier notamment à plume, faisan, perdreau, etc. Là je pense qu'on atteint pour moi l'idéal, puisqu'on a une viande blanche fine en même temps giboyeuse.
Mais c'est marrant parce que Il y a la partie agronomie, la partie vinification. La vinif, elle est toujours le reflet de ce qui se fait à la vigne. On est d'accord, c'est une banalité ce que je dis, mais ça veut dire que si on change les critères, on changera la suite, on changera la vinif ou on changera le résultat. On aura d'autres choses, on aura d'autres cépages qui vont venir, qui peut-être un jour supplanteront. Je ne sais pas, Hérissé, le Chardonnay, ou supplanteront le Pinot Noir, ça m'étonnerait, parce qu'il est là pour longtemps.
Il est de mieux en mieux.
Il est de mieux en mieux, oui. Ouais. Quand il prend un coup de gelée, il arrive à refaire un peu de raisin. Quand il prend un coup de grêle, il arrive encore à faire un peu de raisin. Je pense que pour revoir un 96, il va falloir attendre un peu, mais ouais, on a des acidités qui sont de plus en plus basse. Ouais. Mais par exemple, c'est le cas de cette année. D'accord ? Et on s'est dit, oulala, alors il y a deux théories, je vous en ai parlé tout à l'heure, soit il faut des moutes sucrées, ou soit très. Avant, on disait très acide, maintenant on revient un peu là-dessus. On s'aperçoit que les millésimes où il y a peu d'acidité, ce n'est pas forcément des millésimes qui ont mal vieilli. Donc cette année, c'est le cas, il y a peu d'acidité, il y avait un fort potentiel au niveau du sucre. Les pH se tiennent, la dégustation elle est plutôt très très bien. Donc on verra ça dans 5-6 ans, on verra si ça tient. Si ça tient. Oui, tout à fait. Ouais. C'est ça. D'ailleurs on l'a écrit à un moment donné. On a dit que c'est un millésime exceptionnel de la trame du millésime de 82. Voilà. On l'a écrit. Pourtant, 82, c'est un millésime où il y a beaucoup, beaucoup de récoltes. Mais ça ne veut rien dire. Voilà. Ah, 89. C'est une forte maturité aussi, une fin de cycle qui est plutôt très très bien. C'est un bel équilibre entre les sucres et les acidités. Tout à fait.
Je ne connais pas ni à Bouzy ni en Bonnet, et je sais qu'on peut faire de très jolis rouges, etc. là-bas, mais ce grain-là de goût, on le trouve
correct. Oui. C'est aussi un millésime qu'on n'a pas choisi au hasard. C'est parce que, en fait, le banc des vendanges en Champagne était décidé à Épernay. C'est-à-dire que les prélèvements pour contrôler la maturité étaient faits plutôt dans le nord de la Champagne, très peu dans le sud. Et on ne tenait pas compte des avis de la partie la plus au sud de la Champagne. Moi, j'ai connu un millésime catastrophe à cause de ça, qui était le millésime 86, d'accord, où on a tardé pour prendre les décisions de vendange parce que les décisions n'étaient pas prises à Épernay. Or, on a manifesté notre désaccord avec ça et on a lancé ce qu'on appelle les sections locales pour contrôler la maturité partout, sur toutes les communes champenoises. Et à ce moment-là, on a tenu compte de notre avis. 89, c'est un millésime où on a commencé quand il fallait. Voilà. Vous êtes d'accord avec moi, Charles, ou pas ?
On a quelque chose qui fonctionne très bien en Champagne.
Maintenant, c'est... Voilà, les réseaux Mathus. Et le réseau Mathus date de ces années-là. Voilà. La plus adéquate pour commencer. Alors c'était... Ouais. Parce qu'on s'aperçoit, quand vous avez un avis sur des récoltes en Champagne, n'oubliez pas qu'entre la partie la plus au nord et la partie la plus au sud, il y a autant de distance qu'entre chez nous et Beaune, par exemple. Donc il y a 180 km, il peut y avoir des phénomènes climatiques que nous avons et que non pas, etc., etc. Ça fait des vins complètement différents. Et c'était important d'avoir cette possibilité de prendre une décision de début de vendange complètement décalée par rapport au reste de de l'appellation.
La seule appellation de France à avoir ce système.
C'est ça.
Dans lequel on fixe les dates au début de vendange, on fixe le temps de vendange par village, par cépage et parfois par secteur à l'intérieur.
C'est le 80. On vous a servi le 80 déjà ? Ah, vous allez voir, il est trouble le 80. Enfin, je ne sais pas comment il a supporté le voyage, mais. Parce qu'il est plein de... Ouais, c'est normal, c'est parce que vous avez été servi en premier. Le problème, c'est qu'il y a plein d'agrégats de matière colorante dedans. Et il se peut que les gens qui sont servis en dernier avec la bouteille, vous ayez des problèmes de troubles. Mais on peut resservir peut-être, parce que s'il y a d'autres bouteilles, c'est mieux de reprendre le... Pour dire que le rosé d'Erissa, ça ne supporte pas le voyage, en fait. Il faut venir le goûter chez nous. Ben quoi, moi, je suis bienvenu vous voir. Vous pouvez venir me voir, donc il n'y a pas de souci. J'ai relevé ce qu'on avait dit du 80 à l'époque. On avait dit août fait le goût. Ce qu'on disait, août fait le goût et septembre fait le reste. Et il y avait eu une très belle fin de maturité, effectivement. Un excellent état sanitaire. On l'avait qualifié de corsé et de bouqueté. D'accord. Et vu le niveau de l'acidité, on lui avait garanti une longévité digne des grands millésimes. Voilà le jugement de l'époque. Vous êtes bluffé, pas ouais. Moi, j'avais juste une petite crainte, c'est l'ouverture de ces vins-là, parce que quelquefois, comme c'est encore des vins qui sont bouchés traditionnellement, on a des comportements dans les bouteilles qui sont un peu qui oscillent un peu aléatoires. Donc.
Cette sélection qu'on utilise, dont la moitié de notre domaine est plantée, on l'appelle Pinot d'Hérissé. Voilà, c'est une massale locale. Qu'on continue à perpétuer. Bah, la moitié de notre domaine en est planté, et aujourd'hui, on reprend dedans pour redévelopper cette massale, pour continuer à planter. Mm-hmm. Voilà. Et en plus de ça, on complète avec des sélections bourguignonnes et des sélections champenoises, qu'on plante aussi dans des parcelles différentes pour avoir plusieurs types de pinot noir en fonction des vins qu'on veut faire, parce que, bien évidemment, on fait aussi du champagne. Et voilà, ça permet d'avoir une palette de pinot noir différents, en fonction de... Parce que les récits est un terroir très accidenté. Hein. On a... À chaque fois, je pense à Charles, mais à chaque fois, on a les pentes les plus fortes de la Champagne. On parle au et la forêt, typiquement, est à entre 40 et 45 degrés. Hein. Donc, voilà. Et avec des orientations très différentes. La forêt est plein sud, mais on a aussi... En fait, l'Hérissé, c'est une arête de poisson. Il y a une vallée centrale, du sud vers le nord, et plein de petites rues qui se jettent dans la Laine, qui est la rivière qui passe au milieu. Et chaque rue délimite une colline. Donc on a des endroits face au sud, des envers face au nord, mais aussi sur les bouts des barres, on a des orientations est et ouest. Donc en fait, on a tout type d'orientation, plus une variation de pente et des variations de sol auxquelles vous avez fait allusion. Donc on a une multitude en fait de terroirs différents et on essaye de trouver les meilleures adaptations entre ces différentes sélections de pinot noir et les différents terroirs pour élaborer, in fine, six types de vins différents autour du pinot noir. On élabore du champagne blanc de noir, du champagne rosé d'assemblage à la champenoise, du champagne rosé de saignée, de macération, donc à la Riston, en parcellaire, millésimé. On élabore le rosé d'Hérissé, on élabore un coteau champenois rouge, et pour boucler la boucle, on élabore aussi un coteau champenois blanc de noir. Voilà. Donc, et aussi, on distille depuis 2 ans notre mare de rosé d'Hérissé. Donc, une petite surprise pendant quelques années. Voilà. Donc, pour vous donner un petit peu la variété de possibilités qu'on a à Hérissé et tous les différents emplois des différentes sélections de pinot noir qu'on peut avoir. Bah écoutez, merci beaucoup à tous pour votre attention. Merci.